coq chanter le jour paraît, tous ses debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Le 2 mai 2020, c'était la journée mondiale du thon. Et le 8 juin, c'était la journée mondiale des océans. Du fait de la pandémie du Covid-19 et des mesures barrières qui ont paralysé le monde entier, le coq chante n'a pas pu prendre part à ces deux événements majeurs. Aujourd'hui, nous allons aborder ces questions des océans à travers le rôle majeur joué par le thon dans le commerce mondial des produits de la mer. Le thon est un produit emblématique. Présent dans presque toutes les mers du globe, la santé des stocks de thon est un indice important de la santé des mers. De plus, ces poissons jouent ainsi un grand rôle au niveau du développement durable, de la sécurité alimentaire, des opportunités économiques et des moyens de subsistance pour les populations du monde entier. Pour situer les enjeux, quelques chiffres. Plus de 8% du commerce mondial des produits de la mer, 42 milliards de dollars par an, 7 millions de tonnes capturées chaque année, 20% de la valeur marchande de toutes les pêches de capture marine et plus de 8% de la production mondiale des produits de mer. Au téléphone, nous avons discuté avec les responsables et les animateurs de l'ONG MSC. C'est une organisation qui intervient dans la préservation du thon dans de nombreuses régions du monde. La question est cruciale. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, constate que la demande du marché de thon reste élevée alors que les stocks de ces poissons restent surexploités. Voilà pourquoi plus de 96 pays sont impliqués dans la conservation et la gestion du thon. Margot Favré est responsable scientifique des pêcheries au MSC.
Alors le MSC, pour faire simple en français, c'est une ONG qui a pour objectif de lutter contre la surpêche. Et on le fait via un label, donc c'est un petit logo qu'on peut retrouver sur les produits de la mer qui permettent de garantir aux consommateurs que le poisson sur lequel ils voient le logo a été pêché de façon respectueuse de l'environnement, donc en respectant les stocks de poissons, en limitant l'impact de l'engin de pêche sur l'écosystème et en assurant que la pêche est bien gérée et de façon respectueuse de l'environnement. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, ça permet de créer une incitation, ça incite les pêcheurs à améliorer leurs pratiques, à faire des efforts supplémentaires pour obtenir la certification MSC et pouvoir vendre leurs produits avec ce petit label. Donc c'est tout un cercle vertueux qu'on essaie d'instaurer pour transformer la filière pêche.
Donc pendant une année et demie, vous suivez mes pratiques, comment je travaille et tout ça. Et si je mérite cette certification, vous me donnez le label, je peux le mettre sur ma production. Et si je ne l'ai pas, ça veut dire qu'il y a une plus-value que je n'ai pas.
Voilà. Alors effectivement, si la pêcherie obtient la certification, elle peut mettre le logo, elle peut vendre son produit en tant que certifié pêche durable MSC. Mais il va y avoir des audits annuels, donc tous les ans, d'évaluation et l'organisme de certification vont revenir voir la pêcherie, récolter les données, etc. pour vérifier qu'elle répond toujours au cahier des charges MSC. Si elle n'y répond plus, la certification peut être suspendue ou supprimée. Donc ça peut paraître exigeant, mais c'est fondamental pour suivre justement cette variabilité des ressources de poissons.
Pour celui qui ne connaît pas ces choses-là, quelles sont les caractéristiques de ce thon? Parce que j'ai vu que commercialement, il est intéressant.
Alors, le thon, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'un thon. Il y a en fait plein d'espèces de thons différentes. Le thon, c'est une famille, on va dire.
Ah, ce que vous, scientifiques, vous appelez les thonidés.
Voilà, exactement. Les thonidés, donc ça, c'est, on se réfère souvent au thon, mais on parle en fait de thonidés. Et dans la famille des thonidés, il y a plusieurs dizaines d'espèces différentes. Et on va dire que le marché mondial du thon, il se concentre autour de 5 grandes espèces, qui sont le thon germont, le thon albacore, le thon listao, le thon rouge et le thon obèse. C'est un peu ces 5 grandes espèces qui font le plus gros des captures mondiales de thon. Et on estime aussi que c'est 30% du marché des produits de la mer dans le monde. Donc oui, ça a une importance économique très importante, une importance aussi sociale, parce qu'il y a énormément de pays qui pêchent le thon et qui interagissent dans la gestion du thon, et une importance environnementale aussi. Avec autant de pays et autant de bateaux qui pêchent le thon, il faut vraiment, c'est d'autant plus important de s'assurer que les stocks restent en bon état pour pouvoir nourrir toutes les personnes qui en dépendent.
Je ne vous cache pas que j'ai toujours entendu parler du thon. Moi, je l'ai toujours vu en boîte ou en steak. Ouais. Le jour où j'ai vu un thon en vrai, je ne savais pas que c'était un animal aussi costaud.
Oui, ça peut être très gros, hein. Il y a des thons qui peuvent atteindre plusieurs centaines de kilos. Ça peut être très impressionnant.
Ah, c'est-à-dire que quand on pêche trop, le thon en question n'a pas le temps de se renouveler.
Exactement. Donc en fait, la surpêche, c'est le fait de mettre trop de bateaux sur l'eau ou de sortir trop de poissons de l'eau, ce qui fait que du coup, il n'y a plus assez de poissons dans l'eau pour se reproduire et pour assurer que le stock grandisse et se maintienne à un niveau qu'on appelle un niveau durable, en tout cas un stock en bonne santé. Et ce niveau, il est défini par les scientifiques par ce qu'on appelle le rendement maximum durable. Donc en gros, c'est le maximum on peut sortir d'un stock de thon tout en lui permettant de se maintenir au même niveau, à un niveau stable et en bonne santé.
À ce niveau, il y a deux problèmes pour les scientifiques. L'océan est vaste et les populations de thon bougent tout le temps suivant les saisons.
Ça, c'est une super bonne question et c'est très compliqué justement d'estimer la taille des populations de thon parce que, et de poissons en général parce que c'est sous l'eau, on ne les voit pas. On ne peut pas les compter comme on compterait les arbres d'une forêt par exemple.
Les arbres ont l'avantage de ne pas bouger.
Exactement, ils ne bougent pas et puis ils sont hors de l'eau donc on peut les marquer. Les poissons, ils bougent, ils sont sous l'eau donc on ne voit rien. Donc les scientifiques ont plusieurs techniques pour faire ça. Alors déjà en général, ce qu'il faut savoir, c'est que donc je vous le disais tout à l'heure, il y a 5 principales espèces commerciales de thon. Et ces 5 espèces principales, ensuite, il y a plusieurs populations pour chacune d'entre elles qui sont indépendantes et ce qu'on appelle des stocks. Et donc on estime que ces 5 espèces, c'est en fait 23 stocks de thon différents dans le monde. Donc il y en a plusieurs en océan Pacifique, plusieurs dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique, etc. Et donc les scientifiques, ils évaluent la taille de stocks. Donc pour ça, ils récoltent des données biologiques sur la maturité sexuelle de l'espèce en question, sur sa productivité, sa moyenne d'âge, etc. Ils couplent ça avec les données qu'ils ont sur la pêche, donc les captures qui sont faites, le nombre de bateaux, l'âge des thons qui sont capturés, etc. Et ils font tourner ça dans des modèles très complexes, donc des modèles scientifiques qui leur permettent ensuite d'évaluer l'état et d'évaluer le nombre de poissons, le nombre de thons qu'il y a dans une population.
Ah, c'est pour ça qu'on les voit sur les grands bateaux de pêche, là, avec plein d'ordinateurs.
Oui, il y a des observateurs embarqués, effectivement, sur beaucoup de pêcheries de thon aujourd'hui. Donc, exactement, ouais, les observateurs embarqués sont un maillon essentiel, on va dire, pour l'évaluation de beaucoup de stocks de thon, en tout cas.
Comment vous faites pour mettre tout le monde d'accord?
Il y a plusieurs organisations qui ont été créées dans les années 60 pour gérer, justement, le thon. Et donc, il y a une organisation par océan, qu'on appelle des organisations régionales de gestion des pêches, les ORGP. Il y en a une en océan Atlantique, deux en Pacifique et une en océan Indien. Et ces organisations rassemblent tous les pays de cet océan qui pêchent le thon. Donc en général, il y a entre 20 et 50 pays par organisation régionale des pêches. Et c'est au sein de ces organisations que se décide la gestion, que se discute l'évaluation des stocks, que se partagent les données scientifiques. Et c'est vraiment des organes essentiels pour assurer justement la gestion durable du thon entre les différents pays. Et alors forcément, pour le thon, c'est particulièrement compliqué parce que non seulement donc il y a 96 pays dans le monde qui pêchent le thon, en plus, c'est une espèce migratrice, donc c'est-à-dire qu'un stock de thon est parfois à l'échelle d'un océan, donc c'est énorme. Et c'est pour ça qu'il y a un réel enjeu autour de la gestion du thon aujourd'hui dans le monde, parce que mettre 50 pays d'accord autour d'une mesure ou d'un quota ou d'un nombre de bateaux sur l'eau, c'est parfois très compliqué, donc c'est effectivement très important de sensibiliser le consommateur à la particularité, on va dire, de la pêche au thon et de la gestion de la pêche au thon.
Je vous remercie, madame.
Avec grand plaisir.
Dites, monsieur le pêcheur, ça mord ?
Chut ! Vous faites sauver le poisson ?
Du poisson ? J'en ai jamais vu. Il y en a peut-être, mais faut pas faire de bruit, hein !
Chut ! La barbe !
Ah, mais je veux pas vous déranger. Pêchez, pêchez.
Le pêcheur au bord de l'eau, abrité sous son chapeau, est heureux et trouve la vie belle. Tandis
sifflote sans bouchon, il sifflote une chanson.
Maintenant que nous connaissons un peu mieux le ton et le travail des scientifiques, voyons comment les choses se passent concrètement. En quelques mots, comment concilier la préservation des thons avec une compétition économique effrénée au niveau mondial? Au MSC, il y a 13 bureaux répartis dans le monde. Édouard Lebart est directeur adjoint Europe du Sud et AMESA, c'est-à-dire Afrique, Moyen-Orient et Asie du Sud. Pour être sûr de bien comprendre une première question, à quel moment peut-on dire qu'il y a surpêche?
Comment expliquer ça simplement? Pour chaque stock, les scientifiques en fait évaluent des niveaux d'exploitation et des niveaux de biomasse, donc de quantité de poissons présents dans cette population, qu'on appelle des niveaux de référence. Et en gros, la plupart des scientifiques utilisent une référence qu'on appelle le rendement maximum durable.
Excusez-moi, je veux voir si j'ai compris. C'est-à-dire que il y a un seuil qu'il faut établir, c'est un équilibre entre les besoins de la population, et il faut que ce soit rentable pour moi, société de pêcherie, et il ne faut pas que je compromette le renouvellement de l'espèce.
La pêche est aussi une activité économique et sociale importante, et donc c'est pour ça qu'on essaye de trouver ce meilleur équilibre entre la préservation des ressources, mais en même temps l'exploitation des stocks. Et donc ce niveau de rendement maximum durable, si vous voulez, et ce point d'équilibre. Une pêcherie a aussi des impacts sur l'écosystème. Donc pas uniquement sur l'espèce qu'elle va pêcher, mais également sur d'autres espèces qui sont dépendantes de celles qu'on va capturer, ou alors qui peuvent être pêchées en même temps, de manière parfois accidentelle, c'est ce qu'on appelle les captures accidentelles. Aussi des espèces qu'on appelle accessoires, qui vont être capturées en même temps que ces espèces-là, et aussi des impacts sur les fonds marins.
J'ai vu les grands bateaux avec des énormes filets, je sais plus comment ils appellent ça, et c'est des filets kilométriques là, et qui vont jusqu'à racler le fond là où les poissons se reproduisent, et les pêcheurs traditionnels évidemment ne sont pas d'accord. Alors j'ai assisté à des affrontements au-dessus de l'eau dans ce genre de situation. Est-ce que vous parlez de ça?
Il y a en effet ces questions de petits bateaux et de grands bateaux, de ce qu'on appelle souvent la pêche artisanale et la pêche industrielle. Mais en fait, la durabilité de la pêche est plus complexe que ça. C'est-à-dire que pour définir la durabilité d'une pêcherie, il ne suffit pas de savoir si le bateau est gros ou petit et si son engin de pêche est un chalut ou un filet. Il faut rentrer beaucoup plus dans les détails que ça. Et c'est ce qui rend en fait cette question de la durabilité des pêches très complexe.
Alors, comment vous vous intervenez dans cette affaire? Parce que là, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de choses, c'est d'une complexité effrayante.
Effrayante, vous avez raison. Oui, c'est une complexité très importante, mais en même temps, c'est des enjeux qui sont hyper importants pour le monde, en fait, hein, parce que la pêche, c'est une activité économique qui est très importante. Pour 1 milliard de personnes sur Terre, le poisson, c'est la source numéro 1 de protéines. Donc ça vous montre un petit peu quelle est l'importance, en fait, même en termes de sécurité alimentaire, du poisson. Comment est-ce que nous, on fonctionne? En fait, on a notamment ce qu'on a créé, c'est ce qu'on appelle un système de certification. Selon des règles qu'on a créées avec des centaines de scientifiques dans le monde entier, des critères qu'on a créés, qui sont au nombre de à peu près 80, un petit peu plus de 80. Et donc, une fois que la pêcherie a passé cet examen, si elle réussit l'examen, elle est ce qu'on appelle certifiée. Et donc, ça permet aux produits en fait, qui sortent de cette pêcherie de porter ce qu'on appelle un label, qui permet en fait, aux consommateurs de se dire « si j'achète ce produit-là, ça me garantit qu'il est pêché de manière durable, il n'est pas prélevé sur un stock qui est surexploité et que les impacts sur l'environnement pour capturer ce poisson sont maîtrisés. »
C'est pour ça que des fois, je vois mesurer les mailles du filet, là.
Là, ce dont vous êtes en train de parler, c'est important. Plus vous allez avoir des mailles petites, plus vous allez capturer un grand nombre de poissons. Et donc, par exemple, en effet, ça fait partie classiquement des contrôles de pêche. Dans les pays qui ont ce système-là, ça permet en fait de vérifier que les filets sont conformes aux réglementations.
Ça veut dire que, par exemple, bon, si j'ai un filet adapté à la taille du thon, les petits qui ne m'intéressent pas vont s'échapper.
Oui, alors sauf que le thon, c'est pêché de manière... Enfin, il y a différentes manières de pêcher le thon. Et la principale façon de pêcher le thon, c'est ce qu'on appelle la senne tournante. Par contre, en effet, sur ce dont on parlait tout à l'heure, par exemple les chaluts, qui sont les filets qui, pour le coup, sont traînés derrière un bateau. Là,
Que moi j'appelle les énormes filets, là, vous appelez ça les chaluts.
Donc ça, c'est un chalut. Et là, pour le coup, dans les chaluts, en effet, la taille des mailles du filet est très importante parce que ça va permettre à certaines espèces, enfin, certaines tailles de poissons de s'échapper. Et donc, c'est en effet, ça fait partie du contrôle des pêches. C'est un petit peu une illustration de ce qu'on disait tout à l'heure, en gros, sur l'impact de la pêche sur l'écosystème dans son ensemble et comment est-ce qu'on peut réduire cet impact-là.
On va terminer par cette question. Je ne vous cache pas que j'ai été voir dans la presse avant de venir vous voir. J'arrive pas à me faire une idée parce qu'on me dit le thon est menacé. Après, on me dit non, ça s'améliore. D'autres disent non, tout est foutu. Alors, quelle est la situation actuelle?
Alors, c'est assez complexe parce qu'en fait, le thon, c'est pas une seule espèce. Le thon, déjà, en gros, dans les espèces les plus communément vues sur les marchés, c'est 5 espèces majeures. Vous avez 5 espèces de thon différentes. Vous avez le thon rouge, vous avez le thon germont, vous avez le thon listao, le thon obèse, et ce qu'on appelle l'albacore, ou yellowfin en anglais. Et donc ça, en gros, c'est 5 espèces de thon qui n'ont pas forcément exactement les mêmes le même état. Et surtout, on va parler de ces 5 espèces qui vont se trouver également dans différentes zones du monde. C'est-à-dire que vous allez avoir le Pacifique, vous avez l'Atlantique. D'ailleurs, quand on parle du Pacifique, il y a le Pacifique Ouest et Pacifique Est. Vous avez l'océan Indien. Et en fait, selon ces zones, les mêmes espèces ne vont pas être dans le même état. Donc, c'est assez complexe. Si vous voulez un résumé, en gros, sur ces 5 espèces de thon, on a 23 stocks différents dans le monde, c'est-à-dire 23 populations. Et 65% de ces populations sont en bon état, et 17,5% sont surpêchés. Donc, vous voyez bien que, en fait, on ne peut pas dire que pour le thon, ça va ou ça ne va pas. En fait, ça dépend des cas. Ça dépend de quelle espèce on parle et où elle est pêchée. Donc ça, c'est une chose. Et puis surtout, derrière, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la durabilité également de ces pêcheries-là ne va pas dépendre que de l'état du stock, mais aussi de la façon dont on les pêche et quel va être, par exemple, le niveau de capture accessoire, le niveau de capture de juvéniles qui vont être capturés en voulant capturer ces espèces-là. Donc c'est assez difficile de vous dire de manière globale tout va bien ou rien ne va. Ça dépend du stock dont on parle, en fait.
Je dois reconnaître que vous n'avez pas la tâche facile, hein.
Ah non, je vous l'accorde, on n'a pas la tâche facile. Non, parce que en fait, vous comprenez que c'est du. Pour chaque pêcherie, en fait, on doit définir la durabilité au cas par cas. Parce que vous voyez, là, vous avez posé cette question-là, que beaucoup de monde pose d'ailleurs, hein, qui est légitime, c'est en gros, si j'achète cette espèce, est-ce que ça va? Et en fait, c'est trop simple. On ne peut pas parler en termes d'espèce. Parce qu'une espèce, si elle est capturée dans un endroit dans le monde, l'impact ne va pas être le même que si on la capture ailleurs dans le monde. Et il peut se trouver qu'un des stocks va très bien et un des stocks ne va pas bien du tout. Et donc, c'est assez complexe, en effet, de définir, juste en utilisant l'entrée espèce, c'est assez difficile de définir qu'une pêcherie est durable.
Je vous remercie. À l'occasion de la Journée mondiale du thon 2020 et de la Journée mondiale des océans, nous parlions aujourd'hui du rôle majeur joué par le thon dans le commerce mondial des produits de la mer et des efforts de préservation de cette espèce de thonidée. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Jérémy Bessé, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.
Carrefour de l'Europe,